Chers amis, auditeurs et téléspectateurs, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver ce mois-ci, le mois d'avril, dans cette émission qui est en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Est-il encore besoin de démontrer qu'il n'existe plus qu'une seule Sciences Po désormais ? En France, c'est l'ICEP, les autres, ce sont, disons, des établissements où l'on fait des stages d'initiation à l'antisionisme, à la défense de la Palestine, de la République islamique d'Iran, etc., etc. Il y a des occupations sans cesse de bâtiments. Là-bas, à l'ICEP, on se contente de suivre des études en sciences sociales, économiques et politiques. Donc, c'est avec plaisir que je vous retrouve, si vous voulez bien entendu des renseignements sur la prochaine rentrée de l'ICEP. Il vous suffit de googliser l'ICEP, c'est pas très compliqué, et vous vous renseignerez sur les prochains concours d'entrée. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui quelqu'un que j'ai déjà reçu, qui est Maître Loïc Lorat, mais il n'est pas ici en tant qu'avocat. Il vient ici en tant que papa, et de ce fait, il représente aussi la maman. Pour parler de cette question délicate, en effet, d'être parent d'enfants handicapés, parce que le nom de l'émission, c'est à l'ère de l'euthanasie, mais on pourrait parler aussi depuis trop longtemps désormais, bien sûr, de l'ère de l'avortement. On va comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais il se trouve que nous énonçons ici, évidemment, dans ce genre de milieu qui est le nôtre, des principes qui peuvent paraître, d'ailleurs, pour beaucoup, des principes très très sévères, très exigeants. Et on peut très bien comprendre, évidemment, qu'ils puissent paraître sévères et exigeants auprès de gens. Ils se disent, mais ils sont gentils, mais enfin, bon, Adeline, il défend un certain nombre de principes, mais enfin, on l'a jamais vu à l'œuvre s'il se retrouvait dans la situation de parents qui se retrouvent avec des enfants soit non viables, soit sévèrement handicapés. Alors, qu'est-ce qu'il ferait? Et on peut tout à fait comprendre cette réserve, et c'est pourquoi, alors je vais dire Loïc Lorat et non pas Maître Lorat, puisque vous ne venez pas là à titre d'avocat, vous venez nous porter un témoignage très précieux. On parlera aussi de quelqu'un qui vous est cher, qui est le député ou la députée européenne Laurence Trochu, qui a sorti un livre absolument magnifique, mais je crois qu'elle est déjà venue le présenter à la radio. Ce livre, ce témoignage extraordinaire, magnifique, qui s'appelle « Maman, j'ai vu Jésus », où elle raconte l'histoire d'un grave accident ayant entraîné un handicap de son fils. Et c'est très très prenant, je pense qu'on essaiera d'en parler aussi ensemble. Mais en attendant, alors soyons très concrets, puisque encore une fois je voudrais échapper aux reproches d'être abstrait sur la défense de ses principes. Mais, comme disait Kierkegaard, la morale nous enseigne tout cela en nous raillant, mais l'expérience ne montre qu'on ne peut que le vouloir. L'expérience, vous l'avez vécue, Loïc Lorat, avec votre femme. Comment est-ce que ça se passe? Vous attendez un enfant, et bien entendu, il y a
des imageries.
Oui. Moi, des imageries, moi qui ai pas mal d'enfants, je devrais me souvenir du terme.
Des échographies,
merci beaucoup. Et là, tout à coup, que se passe-t-il? Racontez-nous simplement.
Alors, je vais vous raconter, alors en préambule, je veux quand même dire qu'effectivement, j'ai cherché quelle était ma légitimité sur le sujet. Est-ce que j'avais cette légitimité à intervenir aujourd'hui devant vous? Je me suis posé la question. Peut-être que la plus légitime d'ailleurs du ménage, c'est ma femme qui porte à bout de bras la famille depuis la naissance, au moins de notre aîné Théophile, mais depuis la naissance de Vianney plus encore. Elle est absolument héroïque, et donc elle est de ces héros du quotidien dont on parle peu, malheureusement. Donc j'associe évidemment ma femme Tiffaine à ma présence chez vous aujourd'hui. Alors les choses ont été assez simples, en tout cas dans leur Déroulement pour nous, c'était lors de l'échographie, la deuxième échographie, je crois, enfin l'échographie morphologique du cinquième mois, si je ne m'abuse. Et c'était le 25 juillet 2014, à une échographie à laquelle je ne vais pas être présent d'ailleurs. Et puis mon calendrier s'étant allégé, j'ai pu être présent et j'ai bien fait d'être présent parce que ça a été effectivement pour nous l'échographie la plus inattendue qui soit. Donc, nous sommes arrivés dans le cabinet de l'échographe, et puis donc les choses se passaient tout à fait normalement, ils prenaient mesure, etc. Puis à mesure que l'examen avançait, on voyait le visage du professionnel se refermer, ce qui, dans ces moments-là, vous fait dire que les choses ne vont pas totalement comme elles auraient dû aller. Donc les choses, c'est difficile pour moi d'en parler. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais de bégayer parce que c'est pas simple de parler de soi. Hein.
Bien sûr. Je
C'est pas simple de parler de
vous
soi.
comprends d'autant mieux que moi j'ai vécu exactement la même chose, mais le bébé était mort dans le ventre
Oui,
de ma
donc.
femme. Et effectivement, j'ai vu se fermer le visage de l'échographe. Donc j'ai connu cette expérience. Mais enfin, vous,
Voilà.
c'est pas la mort, c'est
Non,
encore la vie,
c'est la
la vie.
vie, c'est une vie différente, mais c'est une vie à part entière. Donc le médecin nous a dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle, l'avenir qui s'offre à vous est particulièrement sombre, votre enfant est atteint, alors on a appris des mots qui sont rentrés dans notre vocabulaire ce 25 juillet 2014, dont on n'imaginait absolument pas l'existence. Spina bifida, c'est une malformation de la moelle épinière. C'est un trou dans la moelle épinière, donc dans la colonne vertébrale, pardon. C'est une épine en fait, hein, spina, c'est ça,
Ouais.
dans la colonne vertébrale. Alors jusque-là, bon, ça
Une
peut se
épine
vivre.
osseuse,
Oui,
donc,
c'est
c'est
ça,
ça.
c'est un trou en fait, hein, dans la colonne vertébrale. J'en ai moi-même un. Mais il n'est pas symptomatique et surtout il n'est pas accompagné d'un myélomélingocèle. Le myélomélingocèle, c'est la moelle attachée. Donc c'est quand la moelle en fait est prise dans est aspirée en quelque sorte dans cette fente. Il y a une décompression qui se fait et puis la moelle est aspirée vers le bas de la colonne vertébrale. Et donc Vianney avait et a cette malformation. Alors on nous a dit bon, dans un premier temps, c'est un avenir sombre. Il n'est pas du tout certain que votre enfant vive. S'il vit, peut-être ne vivra-t-il pas longtemps. Et même s'il vit longtemps, ce sera dans un état, le terme avait été utilisé de mémoire, de légumes. Bon. De fait, ma femme,
Oh
qui a
là là.
toujours le don pour mettre l'humour là où pourrait ne rester que la tristesse, dit aujourd'hui avec le recul, oui, c'est vrai, c'est un légume, puisque c'était un petit chou comme on n'en a pas connu avant. Donc voilà, donc c'est ce 25 juillet 2014, la nouvelle est tombée un peu violente comme ça sur nos épaules. Ma femme a accusé le choc et très très fortement. Il y a eu pour elle véritablement un très grand choc et des conséquences, peut-être des larmes, j'ai plus tout en tête, mais pour ma part, et c'est peut-être le premier motif d'étonnement que j'ai eu, de grâce aussi sans doute, c'est que ça a coulé comme sur les plumes d'un canard.
Donc c'est une grâce pour les deux,
C'est
en
une
fait.
grâce pour les deux parce qu'effectivement, Tiphaine, elle porte l'enfant et donc elle a aussi cette responsabilité très lourde de la mère qui sait qu'elle porte l'enfant et qui peut-être qu'il y a une forme de culpabilité, de culpabilisation qui n'a pas lieu d'être, mais peut-être. Et puis moi, au contraire, eh bien, je suis comme anesthésié et je me dis, bon, il faut avancer. Et donc, je peux servir effectivement de soutien
Oui,
à
c'est
Tiphaine
ça.
pour qui les choses sont plus difficiles. J'ai eu après un contre-coup, parce qu'on a toujours un contre-coup, évidemment, mais sur le moment, j'ai tenu. Voilà. La question qui nous a été assez vite posée, c'est, bon, est-ce que vous voulez garder cet enfant? Là, pour le coup, autre grâce à la réponse, nous avions une question évidente qui venait de se poser, une question évidente, c'était oui. C'est une vie
À la
à
question, vous
aimer.
aviez une réponse évidente.
À la question, nous
Oui.
avions évidemment une réponse immédiate. C'était oui, c'est une vie à aimer, c'est une vie à chérir, c'est une vie qui nous est donnée, c'est une vie que nous célébrons, y compris dans sa fragilité. Donc nous avons répondu, nous refusons de pratiqué une IMG. Parce que c'était une IMG, une interruption médicale de grossesse.
Ah, médicale de grossesse. Ce qu'on appelait un avortement thérapeutique.
Exactement.
Autrefois.
Voilà. Ouais. Donc nous avons évidemment tout de suite balayé cette hypothèse et le médecin, qui était d'une très grande conscience professionnelle, nous a dit « Pour ma part, je ne vous reposerai plus la question. » Et plus jamais cette question n'a été posée de sa bouche, en tout cas. Et puis ensuite, il faut avancer.
Alors, il faut dire que vous et votre épouse étiez, et vous êtes toujours, évidemment, animés par des convictions catholiques, très chrétiennes, très profondes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de, ça vous a aidé forcément. Ça ne résout peut-être pas tout.
Ça ne résout pas tout parce que la vie pour un enfant handicapé et pour des parents d'enfants handicapés, elle est mêlée de considérations naturelles, surnaturelles, mais aussi naturelles. Le quotidien, il n'est pas malheureusement que surnaturel, ce serait bien, mais il ne l'est pas uniquement. Mais évidemment que sans la foi, nous n'aurions pas tenu. Et nous pouvons d'ailleurs comprendre ce que peut-être je n'arrivais pas personnellement à comprendre lorsque j'organisais des chapelets pour la vie ou des manifestations, militais dans mon salon bien au chaud, dans mon fauteuil, levé dans mon fauteuil, je ne le comprenais peut-être pas. Mais je peux comprendre aujourd'hui que certains parents prennent des décisions qui n'ont pas été la nôtre parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas soit les soutiens familiaux, soit et surtout la foi pour les aider à voler. Parce que la foi, ce sont les ailes qui nous permettent de voler. Les amis aussi, tout ce que nous avons reçu, et on pourra en parler, y compris de personnes dont nous ne connaissions même pas l'existence, c'est immense, et ça a été immense, et ça le reste aujourd'hui encore. Mais sans la foi, il est certain que nous n'aurions pas tenu de la même manière et que peut-être nous n'aurions pas pris la même décision.
Est-ce que vous avez toutefois subi des pressions, alors de différentes natures, familiales, on peut espérer que non, amicales, on peut espérer que non non plus, mais sociales, médicales? Alors vous parlez de ce médecin qui est assez droit, qui dit « je ne vous reposerai jamais ».
Il a posé la question qu'il devait poser. Il devait la poser.
Il devait la poser.
Il devait la poser. Il devait la poser parce que si jamais il n'avait pas posé cette question ou s'il ne nous avait pas donné cette information, ça aurait pu lui être reproché, y compris par les parents qui, que nous étions. Donc il a posé la question.
Ouais.
Cette question nous a été posée à d'autres reprises par d'autres professionnels, puisque lorsque, évidemment, nous avons appris l'état de Vianney, il a fallu que nous nous orientons, alors on a été aidés par les professionnels de santé, mais vers les bons hôpitaux, les bons professionnels, pour donner toutes les chances à Vianney de vivre, en tout cas de naître déjà, et ensuite de vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc nous avons été dirigés vers un grand hôpital parisien, dans le 15e arrondissement, pédiatrique, et dans cet hôpital, il est arrivé qu'on nous repose la question. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote assez amusante, en tout cas qui nous a amusés après coup, c'est que sur notre dossier, nous avions répondu que nous gardions Vianney, que la question ne se posait pas une fois de plus, nous étions indiqués comme parents conservateurs. Alors nous avons vu cela comme un clin d'œil de la Providence, puisque nous conservions la vie, mais conservateur, c'était bien sûr dans le sens où nous voulions garder l'enfant. C'était pas, ça faisait pas référence à des options politiques ou intellectuelles. Je pense que c'était un terme qui signifiait que l'on conservait l'enfant.
Que vous conserviez l'enfant.
Voilà.
Oui.
Et donc dans cet hôpital, nous avons été étiquetés comme parents conservateurs. Mais des médecins aussi nous ont remerciés parce que dans 96 à 98% des cas, je crois, si je ne me trompe pas, les enfants qui sont atteints d'un spina bifida ne naissent plus, parce qu'on ne les laisse pas naître. Et des médecins nous ont remerciés en nous disant « Grâce à vous, peut-être que nous allons pouvoir faire avancer
la science oui, bien sûr.
Et la recherche, parce que nous avons sous la main, en quelque sorte, un cas, un enfant qui présente cette malformation. » c'est une malformation qui est importante quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, on pourra en parler, et on parlera sans doute de ce que nous avons vécu comme plusieurs petits miracles, mais c'est une malformation qui, telle qu'elle se présentait sur les imageries, était extrêmement importante. C'était un tiers de cerveau pour deux tiers d'eau, ce sont les proportions inverses qui sont constatées habituellement chez un enfant normal, en tout cas ordinaire, on dit nous, parce qu'on dit de nos enfants qu'il se, en tout cas deviennent qu'il est extraordinaire. Il sort de l'ordinaire, il n'est pas handicapé, il est extraordinaire. Donc chez les enfants ordinaires, entre guillemets, et ce sont des proportions inverses qui sont constatées.
Dans le ventre de sa mère.
Exactement.
Deux tiers de cerveau.
Dans le cerveau de l'enfant, dans le ventre. Parce que c'était des imageries qui étaient effectuées avant la naissance. Et puis des cloisons cérébrales avaient explosé sous le poids de la pression parce que ce trou dans la colonne vertébrale et cette moelle épicéliquide céphalo-rachidien cette moelle épinière qui descendait ce liquide céphalo-rachidien qui ne pouvait plus s'évacuer créait une sorte de pression intracrânienne qui faisait que à la fois le crâne gonflait, le cerveau était descendu, donc ça ne s'évacuait plus. Donc les conséquences, il n'y a pas besoin de les présenter à nos auditeurs, elles sont, si rien n'est fait, dramatiques. Voilà, il y avait un risque évidemment à la naissance et ensuite très important. Et les médecins nous disaient, écoutez, ce sera vraiment très très dur. Vous allez vraiment, vraiment vivre des choses très difficiles. Peut-être même perdre votre enfant à la naissance, voire avant. D'ailleurs, c'est assez peu naturel parce qu'on s'est préparé. Quand beaucoup se préparent à accueillir un enfant, nous, on s'est préparé, en fait, à la fois à ce qui pourrait se passer pendant la grossesse, mais également à ce qui se passerait après la naissance. Et alors qu'on pense avant tout à envoyer des faire-part de naissance, nous on a songé peut-être à devoir envoyer des faire-part de décès, je ne sais pas, de faire pleurer dans les chaumières, mais c'est pour expliquer la réalité qui était la nôtre. Et puis la question n'était pas de savoir dans quelle école on le mettrait plus tard, ou laquelle, voilà, mais si on n'aurait peut-être pas besoin plutôt de faire une place dans une concession familiale. Donc ça, c'était vraiment les questions qui se posaient à nous.
Donc je vous remercie d'être le plus concret possible, et là vous l'êtes, c'est vraiment pour témoigner de cela, pour la vie ordinaire des parents à qui ça arrive. Ensuite, on va aborder la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Mais avant ça, on va peut-être passer un tout petit peu de musique pour nous reposer. Vous avez donc appris cela, maintenant c'est acté, vous avez choisi, donc de, non pas choisi dans le sens américain pro-choice, mais vous étiez pro-life, je suis désolé, il va falloir que je mette une pièce dans le, et même deux pièces dans le cochonnet, vous n'étiez pas pro-choix mais pro-vie, et donc maintenant concrètement comment est-ce que ça se passe? L'enfant naît.
Oui, il naît. C'est la première
accouchement.
C'est la première étape qui n'était pas du tout assurée. Il naît. En tout cas, il naît vivant.
Ouais. Et là, vous voyez déjà qu'il est handicapé quand il naît.
On le voit, mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que lorsqu'il naît, tout de suite, d'abord, on voit que son spina est, alors, c'est un peu technique, mais est occulta, c'est-à-dire qu'il est fermé et pas aperta. La moelle n'est pas à vif.
Ouvert,
ouais. Donc ça, c'est déjà une chose importante, ça évite une opération si vous voulez, parce qu'on pourra parler des opérations. Aujourd'hui, Vianney, il a bientôt 12 ans, il a été opéré 15 ou 16 fois, vous voyez,
Ah, plus
donc
d'une fois
plusieurs
par an,
fois au
ouais.
niveau du cerveau, donc enfin du crâne. Donc déjà, c'est une opération de moins. Ouf.
D'accord.
Voilà. Vous savez, on va de ouf en ouf dans ce, si je dois parler de façon un peu comment dirais-je, triviale. Donc ouf. Il naît. Des imageries sont tout de suite faites pour voir quel est l'état de ce qui se passe à l'intérieur de sa boîte crânienne. Et là, c'est une première stupéfaction. Vianney, alors qu'il, je vous le rappelle, n'avait plus qu'un tiers de cerveau pour deux tiers d'eau, bénéficie à présent comment dirais-je, de conditions très différentes, puisque ce sont deux tiers de cerveau pour un tiers d'eau. Les proportions se sont inversées.
Et ça, c'était pas prévu.
Ben non, parce que ça n'existe pas. Les cloisons cérébrales étaient réapparues. Ça n'existe pas, ça ne repousse pas, c'est pas une dent, vous voyez? C'est pas un morceau de peau qui revient. Ça n'est pas également possible. Donc déjà, là, on reste interdit devant ce que l'on n'arrive pas à expliquer médicalement. Et les médecins le disent, scientifiquement, nous n'avons pas d'explication. Alors nous, un peu malicieux que nous sommes, nous leur avons immédiatement dit, nous avons une explication, mais peut-être ne sera-t-elle pas entendue par le corps médical, donc nous allons la garder pour nous. Et là, un médecin s'approche de nous. Il nous dit, je peux l'entendre. Et ce médecin dont je tairai le nom,
Parce qu'il est encore en
parce
exercice.
qu'il est encore en exercice, ce médecin portait un nom qui correspondait au mot près à une grande prière quotidienne catholique. Donc là, on s'est dit, mon Dieu, c'est le cas de le dire, c'est un clin d'œil.
Un
C'est un clin
intersigne, comme on
Dieu,
appelle ça.
voilà. On dit que le hasard, c'est Dieu qui intervient incognito. C'est le hasard avec un grand D, effectivement. Là, c'est la providence qui était à l'œuvre. Donc première stupéfaction. Mais passé cette stupéfaction, il faut bien en arriver au quotidien et à ce qui doit immédiatement être mis en place. Donc d'abord, Vianney est resté un mois à l'hôpital, à peu près un mois et demi.
Pourquoi?
Parce que il a dû être opéré quand même, puisque je vous l'ai dit, le cerveau, lui, était toujours bien descendu et bouchait l'évacuation du liquide céphalo-rachidien qui s'évacue, comme nous parlons, notre liquide s'évacue dans la colonne vertébrale, redescend et est ensuite rejeté par le corps. Lui, ça restait bloqué dans le cerveau. Donc, il y avait une pression intracrânienne et le cerveau gonfle,
D'accord.
la boîte crânienne, sous le poids de la pression du liquide gonflait. Donc il a fallu l'opérer tout de suite. Et depuis, Vianney vit avec un drain, une dérivation ventriculopéritonéale, comme on dit, donc qui part du ventricule du cerveau, qui descend dans le péritoine pour ensuite s'évacuer normalement comme tout un chacun. Ça, c'est la première opération, et cette opération, elle est importante, elle est longue, et elle suppose donc une surveillance médicale ensuite à l'hôpital. Puis il y a eu d'autres là. Et puis donc, il venait de naître, si vous voulez, donc avec tout de même un handicap très lourd, une malformation assez lourde, et donc il ne pouvait pas rentrer à la maison au bout de 5 jours, comme c'est le cas
D'accord.
de beaucoup d'enfants.
Pardonnez-moi de rester toujours le plus concret possible. Mais je le fais
Oui,
exprès, hein, pour
oui,
nos
oui,
auditeurs. Ce drain, il est interne, il est
oui. Il est
externe,
interne.
il est interne.
Il est interne, et malheureusement, comme il est enroulé, si vous voulez, à l'intérieur, il grandit avec l'enfant et il arrive qu'il fasse un coude ou qu'il se bouche. Et donc, c'est un drain on a été appelé à changer plusieurs fois depuis la naissance de Vianney.
Il est fait de quelle matière pour qu'il grandisse avec
Ça,
l'enfant?
je pense que ça doit être. Ça, vous m'en demandez peut-être un peu
Oui,
trop parce
c'est
que.
pas une matière organique, enfin je veux
Non,
dire.
non, non, ça doit être un
C'est
plastique ou
chimique,
c'est
oui, voilà.
chimique, hein, je ne
C'est
sais pas trop ce que c'est
pas
exactement.
biologique,
Non, ce n'est
oui.
pas biologique du tout. Et ça suppose un service après-vente, comme on dit à la maison. Voilà. Et malheureusement, parfois, on est obligé de le changer ou de le remettre en place. Et ça, c'est ce qui a expliqué un certain nombre d'opérations de
D'accord.
Vianney. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que vous me dites il est interne ou il est externe. Il est normalement interne, mais à l'occasion, je crois, de son troisième anniversaire, je sais plus, je finis par perdre un peu la mémoire des dates, qu'il a fêté à l'hôpital d'ailleurs. Eh bien, il est resté un mois et demi allongé avec le drain externe, puisque une infection, une bactérie s'était logée dans le drain et donc.
Aïe, aïe, aïe,
Il
oui.
n'a, il a fallu, il a fallu évidemment tout de suite le retirer. Et le liquide n'était plus suffisant dans la boîte crânienne pour remettre le drain. Donc il est resté un mois et demi allongé, à ne pas pouvoir se lever, à l'âge de
3 ans,
3 ans,
dites-vous?
2017, 3 ans. C'est d'ailleurs à la même période que
Oui,
Stanislas, dont on pourra parler tout à l'heure.
le drame de
Mais
l'enfant
voilà,
tranché, oui.
exactement, de Stanislas Trochu. C'est quasiment contemporain. Il est resté allongé pendant un mois et demi à ne pas pouvoir lever la tête, sauf à être clampé, on dit. Donc, dans ce cas-là, on ferme la vanne pour le retourner, en fait. C'était simplement pour éviter les escarres. Alors, on le
Bien
retournait de temps en
sûr,
temps
bien
comme on
sûr.
retournerait une crêpe dans une poêle. Vous voyez, c'est bon.
Alors
C'est
là,
très pratique.
vous êtes à la, je ne sais pas
Oui.
combien de temps opération déjà,
Oui.
mais revenons à la première. Au bout d'un mois, il sort de
Il
l'hôpital.
sort et puis
Et là,
après.
que font des parents
Ah
d'un enfant
bah là les parents, si vous voulez,
qui vient à leur
il
aide?
vient à la
Comment est-ce
maison,
que ça se
l'enfant vient
passe?
à la maison, bien sûr, et après c'est on s'en occupe comme un enfant,
Oui, mais alors
comme
il.
un autre, avec un certain nombre de particularités aussi tout de même. C'est-à-dire qu'un s'il tombe, et c'est arrivé d'ailleurs, il était dans la poussette dans le bus, dans la ville, dans les Yvelines dans lesquelles nous habitions. Et il est tombé, la poussette s'est renversée à cause du bus qui a freiné trop fort. On a filé à l'hôpital dans la foulée parce qu'on s'est dit il a un drain et donc il n'est pas
Bien sûr.
possible, bien évidemment, de ne pas vérifier tout cela
Mais ce que
avant.
je veux dire, c'est quand vous arrivez chez vous, bon, l'enfant, lui,
Ah bah, il y a pas, il y a pas de. Alors oui,
y a
entendons le
pas de
truc.
matériel qu'on
Non,
vous a mis à votre
non, il y a
disposition,
pas de,
rien.
il y a rien. Il y aura ensuite du matériel parce qu'il y a un certain, il y aurait des difficultés au niveau de la maturation de ses poumons. Il aurait besoin de ce qu'on appelle une PCC, c'est un air soufflé parce qu'il faisait des apnées du sommeil, etc., etc. Il a eu des problèmes de végétation. Enfin, il y a eu plein d'opérations aussi pour ça, mais qui ne sont pas liées véritablement à sa malformation. Non,
D'accord.
sinon, à la maison, c'est un enfant comme les autres. En tout cas, il a une chambre comme les autres. Bon, bien sûr, il a une surveillance qui est plus importante. Il ne marchera pas de la même manière et pas immédiatement. Il ne parlera pas. Voilà, il y a beaucoup d'apprentissages qui prendront du temps, mais sinon c'est un enfant comme les autres.
Alors
Tout
comment?
simplement, les soucis que l'on peut avoir comme parent, l'inquiétude, la crainte, elles, bien sûr, sont très différentes. Mais
Et comment la société, enfin dans son organisation,
oui.
quand Maurras parle d'un jaillissement de solidarité réciproque, comment est-ce que ça se manifeste pour vous, puisque vous êtes deux parents d'handicapés et...
Alors, je dois dire que la société, en tout cas, on va dire les structures qui existent pour nous aider sont tout de même assez efficaces. Vianney, depuis maintenant de très nombreuses années, il est pris en charge pour de la kinésithérapie, de l'ergothérapie. Voilà, à l'école, on pourra en parler. Il a une AESH individuelle. Donc, il y a quand même un certain nombre de, je dirais, de soutien. Il y a l'enfer, entre guillemets, administratif, kafkaïen, des dossiers qu'on doit déposer, des aides qu'on doit demander, des renouveler tel ordinateur. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais dans l'ensemble, les choses sont plutôt bien faites.
Bien
Et
fait,
le
oui.
regard, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le regard que les gens portent sur nous ou portent sur Vianney est relativement bienveillant. Bien sûr, il y a toujours des rabat-joie. Il y a toujours ceux qui vous disent « Ah bah oui, mais ça coûte cher à la société, vous avez choisi de le garder, c'est à vous d'en assumer la
Il y a des
responsabilité.
gens qui vous l'ont dit.
» Voilà.
Des fonctionnaires ou des avis privés?
Non, des personnes dans le privé. Et puis il y a eu une fois un généticien dans un hôpital dont je ne citerai pas le nom, qui nous a dit, qui nous a fait comprendre que bon, voilà, c'est vrai que tout cela était quand même très lourd pour la société et que c'était le choix des parents et que c'était pas forcément la société d'en supporter les conséquences. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous entendez ça, vous souriez en vous disant que
Ouais, bah c'est la barbarie, quoi.
ça n'a
C'est.
pas tellement d'importance, que
Oui.
on fait ce que l'on doit faire, on fleurit là où on a été planté, puis le reste, voilà.
Et donc, il y a heureusement votre famille, vos
Bien sûr,
amis.
on a été très soutenus par nos familles respectives. Notre ménage et notre foyer, je crois aussi, en sont ressortis plus soudés que jamais parce que, encore une fois, alors malheureusement, il est des personnes qui, ou en tout cas des familles, qui se divisent devant la maladie, l'épreuve.
Des enfants.
C'est une réalité.
Vous en avez connu,
On en connaît
croisé.
tous, je pense. Mais ça n'a pas été notre cas. Et ça, c'est une autre grâce que l'on a eue, celle d'une sanctification, c'est une chose, mais d'une consolidation de notre famille, de notre vie de famille, de notre ménage, parce que c'est pas toujours facile aussi pour les parents, hein, soyons très clairs. Et puis notre foyer, parce que pour l'aîné aussi, Théophile, notre aîné, ça n'a pas été simple tous les jours, et pourtant il a été toujours héroïque, toujours courageux, parce que bah, quand il fallait partir en urgence à Necker pour une opération, que Tiphaine devait dormir à l'hôpital, que moi je travaillais la journée, que Théophile, il fallait le récupérer, qu'il fallait être là le soir, bah, heureusement qu'on avait une belle-mère, un ami, etc., pour s'en occuper. Et en même temps, Théophile, qui, quand il venait à l'hôpital, disait, c'était très drôle d'ailleurs, il disait, oui, on va, c'est pas grave, c'est juste un problème de tuyau, on va changer le tuyau, puis ça ira mieux. Vous voyez?
Et
Il y avait une forme de,
oui, c'est charmant.
à la fois de naïveté et en même temps aussi, pas que de la naïveté, je pense qu'il y avait une forme de maturité plus grande. Et puis de sens de la responsabilité. Il était l'aîné, et bon, il n'allait pas ajouter je dirais, aux difficultés quotidiennes de ses parents, ses propres états d'âme, alors que pourtant,
Ouais.
ces états d'âme existaient. Et on s'en est aperçu un peu plus tard. Mais voilà, il a toujours fait preuve d'un très grand courage, et ça aussi, je veux le dire aujourd'hui à votre micro.
Alors, toujours dans le concret, vous exercez une profession, vous étiez évidemment déjà avocat à cette époque, votre femme exerce-t-elle une
Non.
profession? Non.
Une profession, si, et c'est pas une profession, mais un rôle irremplaçable dans la société, c'est qu'elle tenait à bout de bras notre famille, nos
Oui, non, mais
quotidiens.
ce que je veux
Mais
dire,
elle n'exerçait pas de
c'est
profession.
toujours pour rester concret, parce que des gens
Et
vous
si jamais
diront,
elle avait exercé une profession, elle ne pourrait plus l'exercer aujourd'hui.
voilà, c'est
Parce
ça.
que ce sont des dizaines, encore aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de rendez-vous par an. Je crois que c'est 6 à 8 conduites par jour à l'école. Enfin voilà, donc non, non. Enfin, je reste chaque jour que Dieu fait, toujours plus admiratif de la force, du dévouement de ma femme, parce qu'elle porte sincèrement un édifice probablement plus lourd que l'airain sur ses épaules et qu'elle tient. Parce que c'est un quotidien qui est un quotidien très lourd, hein.
Oui,
On va pas,
bien entendu, oui.
on le dit avec des paroles rassérénantes et aussi avec, encore une fois, cette espérance qui nous fait avancer, mais ça reste quand même lourd.
Mais c'est pour ça, encore une fois,
Oui.
adressons-nous aux pauvres. Alors, je ne dis pas que vous êtes un millionnaire, mais vous nous dites que vous habitez les Yvelines. Bon, ce n'est pas le 93. Et
Non.
donc, imaginons, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire que si vous aviez été autre chose qu'un brillant avocat au barreau de Paris et que votre femme avait travaillé aux prises uniques du coin, comment est-ce que eux peuvent-ils s'en sortir? Parce qu'il y a aussi cette question qui pourrait nous être adressée. C'est à défaut d'être facile, c'est moins difficile, disons, de garder son enfant quand on a les moyens, mais quand on ne les a
Oui.
pas. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Est-ce que
Alors, c'est certain que la société se doit de protéger les gens fragiles, les gens faibles.
mais
Ça,
le
c'est une
fait-elle, le
réalité. Le
fait-elle?
fait est que il y a beaucoup, beaucoup de frais que nous assumons parce que nous le pouvons. Tout n'est pas pris en charge.
D'accord, ouais.
Par exemple, la psychomotricité, ça n'est pas remboursé. Je peux vous parler, c'est peut-être un peu trivial de parler d'argent, mais c'est 60 ou 65 euros tous les 15 jours. À quoi s'ajoute un certain nombre, tous les trajets qui ne sont pas non plus totalement pris en compte.
Préciser, c'est quoi la psychomotricité?
La psychomotricité, c'est...
Combiner les gestes,
Oui, en fait, c'est pour aider Vianney à appréhender son environnement, à gérer ses émotions aussi, parce que c'est quelqu'un qui, en plus, est assez impulsif et... Il y a une forme de parfois il y a une absence de censure, donc tout cela il faut l'aider à le retrouver, à le trouver, à se sentir bien pour ne serait-ce qu'aussi se déplacer, vous voulez comprendre, se situer dans l'espace et se situer aussi bien physiquement que psychologiquement, moralement. Voilà, donc c'est une discipline qui est très complète et qui est absolument essentielle.
Et qui est inaccessible aux pauvres.
Qui est inaccessible dans la mesure où je pense que les psychomotriciens qui ne sont pas libéraux, aujourd'hui, donc des psychomotriciens en public dans des structures qui existent,
les hôpitaux, oui.
Ne sont accessibles qu'au prix de très longs mois à très longues années d'attente. Voilà, c'est ça la difficulté en fait. Il y a une urgence face au handicap et cette urgence, elle nécessite de prendre des moyens. Donc si on n'a pas les moyens et qu'on doit attendre, alors ce sont probablement des situations qui ne s'améliorent pas de la même manière. Un enfant qui ne va pas avoir le même rythme d'apprentissage, qui ne se pourra pas être aussi autonome, enfin même si nous il n'est pas autonome, mais qui ne pourrait pas être aussi autonome que possible, aussi rapidement que possible. Donc, évidemment que c'est le cœur même du sujet pour le handicap. C'est à la fois la manière dont on considère le handicap dans la société, le regard que l'on pose, mais aussi les moyens que l'on donne, que l'on se donne pour accueillir ceux qui sont handicapés et aider ceux qui ont accepté, quand ce sont des parents, d'élever des enfants handicapés. Parce que c'est un chemin de croix.
Oui, parce que si les gens qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas faire preuve de cette générosité...
Et ils ne laissent pas naître les enfants. C'est
voilà.
J'ai compris ce que vous vouliez, effectivement.
Oui, oui, oui,
bien sûr, bien sûr.
En fait, il ne faudrait pas que nous tenions un double langage.
Même si, je dois dire que dans ces grands hôpitaux parisiens, où l'on a, comme dirait ma femme, une carte VIP à force, parce qu'on y a tellement passé de temps qu'on a des coupes-fils, dans ce grand hôpital parisien, on a vu aussi que parmi les enfants handicapés, beaucoup ne venaient pas des milieux privilégiés de l'Ouest parisien, mais de milieux plus simples, populaires, parfois même de milieux issus de l'immigration, beaucoup.
Des musulmans, quoi.
Des musulmans, oui, parce qu'ils ont une conception de la vie...
Qui ne tue pas leurs enfants.
Oui. ...qui est différente de celle de beaucoup de nos contemporains. Et ces gens-là... Ils n'ont pas forcément les mêmes chances que nous avons, nous, du point de vue financier et de l'aide même familiale.
Oui.
Eh bien, ces gens-là, ils tiennent. Et moi, je dois dire que ça a ouvert mon regard sur des situations que je n'imaginais pas et sur des comportements qui forcent encore aujourd'hui mon admiration.
Mais le psychomotricien à 65 euros la séance...
Mais probablement que c'est plus difficile.
C'est peut-être plus difficile. Avant qu'on observe une deuxième pause, j'ai deux questions.
Le matériel, parce que Vianney, il était en fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, alors là, c'est un petit peu changé, mais à l'époque, un bon fauteuil roulant, ça vaut 4000 euros à peu près, entre 3500 et 4000 euros. Sachant que toutes les options, j'allais dire des cale-pieds, des choses comme ça, parfois, c'est en option, alors que c'est évidemment essentiel. C'était assez mal remboursé, donc si on n'avait pas une bonne mutuelle, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que lorsque nous avons acheté notre dernier fauteuil roulant, on avait eu pour plusieurs centaines d'euros de notre poche, sachant qu'il était passé par là avant la sécurité sociale et la mutuelle, mais il nous restait ce qu'on appelle le reste à charge, qui était pas loin d'être, qui était loin d'être négligeable, sachant que le premier fauteuil roulant que nous avons eu, que je crois que c'est le deuxième maintenant. Je ne vous cache pas que c'est devenu de notre quotidien, donc j'oublie un peu. Ce sont des amis qui ont, eux, perdu un enfant très jeune d'une maladie orpheline. Et ce qui fait d'ailleurs que nos enfants ont été très tôt habitués à la maladie et à la mort aussi, quelque part, parce que ça, c'est une réalité qui, chez nous, est très prégnante. Ces amis nous ont offert le fauteuil roulant.
Mmh.
Et parce que, je ne sais plus pour quelle raison, peut-être avait-il, je crois de mémoire, ils avaient touché une aide dont ils n'avaient pas besoin, et ils nous ont offert ce fauteuil roulant. Donc la solidarité, elle est essentielle, même pour nous qui n'aurions pu probablement assumer cette dépense, mais elle est vraiment importante. Et puis la première chose qu'il faut savoir dire, avant de savoir dire, il faut savoir dire s'il vous plaît, quand on est un parent d'enfant handicapé, mais aussi savoir dire merci. Il faut accepter qu'on nous aide. Ça, c'est très important. Ça a été très difficile d'accepter
Ben
qu'on
oui,
nous...
parce que c'est.
Parce que ça va... Parce qu'on est tous un peu orgueilleux,
Mais
parce
oui.
qu'on a tous l'impression qu'on s'en sortira et qu'on n'a pas besoin de cette aide-là. Mais si, ça, c'est une leçon que je tire de cette aventure de vie de parents d'enfants handicapés. C'est que j'ai appris, probablement. D'abord, j'ai exercé ma charité bien plus que je ne le faisais avant. Ça, c'est important. Et surtout, j'ai appris à dire merci.
Quand je vous écoute. Je pense, je reste toujours dans le concret. Je pense à ce comédien d'origine africaine qui est devenu très célèbre en France avec un film où il s'occupait d'une personnalité très très handicapée et
Ah oui, de intouchable avec
voilà,
de...
intouchable. Mais lui, il est parti aux États-Unis, ce qui le dispense de payer des impôts en France. Donc, c'est pas ses impôts à lui qui paieraient le fauteuil roulant. Du monsieur,
Non,
voilà.
oui.
Donc il y a la différence entre la réalité et le cinéma. Alors, question futile. On va commencer par la plus futile, en effet. Est-ce le thème du Dies Irae qu'on croit deviner dans l'extrait que l'on a écouté? Je m'adresse au compositeur. Eh ben, j'ai jamais fait attention à ça, mais c'est vrai.
Ça,
Oui,
oui, mais
mais non, j'ai pas
il y a un
pensé.
motif
Oui, il y a un
proche.
motif, effectivement, mais j'y ai pas pensé quand j'ai écrit. Alors, est-ce qu'on sait toujours ce qu'on fait quand on écrit un morceau de musique? Je ne sais pas. Je lis sur Internet que certains ont vécu avec une spina bifida. Frida Kahlo,
Ah, mais je l'ignorais,
alors
effectivement.
elle a eu un accident très grave d'autobus. Et qui l'a rendue
Oui,
handicapée,
non.
mais elle a souffert toute sa vie.
Oui.
Il suffit de voir ses
Oui,
peintures.
son œuvre
Quand elle
témoigne.
se représente en biche percée de flèches, elle se voit. Bon, c'est une communiste, donc elle se voit en Saint-Sébastien, disons
Oui,
trotskiste,
oui, oui.
puisqu'elle a reçu également trotskiste avant que celui-là se fasse assassiner. Mais enfin, on va pas parler. Oui, effectivement, je savais pas qu'elle avait vécu avec une spina bifida. Ça l'a pas empêché. D'engendrer une belle œuvre. Et puis le chef d'orchestre
Ah oui, mais je
Jeffrey,
l'ignorais.
je
Oui.
suppose. Alors là,
Ah,
ça.
je connais de nom, mais j'ignorais là encore qu'il fût atteint d'un
Ouais.
spina bifida. Mais bien sûr, non, mais il est possible de vivre avec un spina bifida. Je vous dis, moi-même, j'en ai un.
Et, alors.
Et mon fils est né.
Ah
Mais
oui.
la particularité de celui de Vianney, c'est qu'il y avait ce myélomélingocèle, c'est-à-dire cette moelle qui était prise. Voilà. Et donc qui faisait qu'il y avait cette décompression, enfin, cette descente du cerveau. C'était ça le véritable problème. Parce que le spina bifida, je pense que nombreux sont les Français qui en sont porteurs aujourd'hui sans même le savoir. Il y en a, c'est certain. Mais le myélomélingocèle, c'est autre chose. Et c'est la véritable difficulté. Alors sans compter qu'il a une malformation de Chiari, qu'il est épileptique, qu'il est allergique à... Voilà, comme dirait ma femme, il est toute option. Elle le dit en anglais, mais sur Radio
Ah,
Courtoisie,
je n'aurais pas le
je
droit.
ne le dirai pas parce que vous
Déjà,
avez déjà commis deux impairs.
j'en avais commis un, vous avez dit VIP, ce qui est en fait TPI, TIP, très
Non, c'est une
important.
vraiment importante personnalité.
Oui, vraiment important,
Voilà.
personnalité. Bravo, je reconnais là quand même l'avocat qui perce sous le papa
Oui,
et
puis
qui est capable.
l'Ouest parisien qui n'a pas envie de mettre un sou et donc qui cherche une excuse.
Écoutez, on va continuer, on se repose un petit peu,
Bien
parce
sûr.
que, comme dit cet auditeur, une maison grave et poignante, une émission grave et poignante, et c'est vrai qu'elle est grave et poignante, il faut savoir faire face aussi à ces choses-là. On se passe un petit peu de musique.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis, nous reprenons en restant encore avant d'aller, si je puis dire, dans le métaphysique pour parler comme Aristote. Faut dire pas Aristote qui a classé lui-même ses œuvres de cette manière, mais peu importe. Restons dans le physique. La vie quotidienne de parents et de cet enfant, bien sûr. Donc, il est là, on vous aide autant que possible, la société vous aide autant que possible, mais on a vu quand même qu'il peut y avoir des inégalités sociales qui se répercutent sur la vie en commun avec cet enfant, qui est le vôtre. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Les écoles, déjà, quand il va à l'école, il est scolarisé, ça se passe comment?
Il y a une autre chose aussi que je veux dire, c'est qu'en ce moment, les finances publiques étant contraintes, il y a une tendance générale à rogner sur les aides qui sont accordées, notamment au titre ce qu'on appelle l'AEH, l'aide aux enfants handicapés.
Ah, j'ai cru à l'instant que c'était rogné sur le budget de l'audiovisuel public,
non.
Sur les aides envoyées à l'Ukraine, non, sur la Chine aussi.
Il y a un certain nombre de choses qui sont assez choquantes, et même des parents qui nous ont dit, et c'est pour ça que je veux en témoigner à votre micro, qu'alors que leur enfant est en fauteuil roulant, il doit absolument le renouveler, ce renouvellement a été refusé par la Sécurité sociale ou par la MDPH, je ne sais plus. Parce que c'est elle, je crois. Donc, il y a, si vous voulez, dans ces temps de contraintes budgétaires, malheureusement, les premiers à souffrir de la rigueur sont ceux qui auraient, au contraire, besoin peut-être de plus d'aide. Mais bon, ça, c'est la société qui veut ça.
Ce sont
des choix politiques.
Puisque l'idéal pour la République...
De rationalité économique qui sont surprenants.
Ouais. Oui, oui, l'idéal pour la République eût été que vous fissiez disparaître Vianney. Ce prénom Vianney, vous l'avez choisi.
Oui, on l'a choisi à dessein, c'est le cas de le dire. On l'a choisi à dessein parce que, pour tout vous dire, Théophile, qui est notre aîné, devait s'appeler Augustin. Et puis au dernier moment, le jour de la naissance, je crois que c'est parce que c'était la lettre de Saint Paul à Théophile, précisément, ma femme a dit « ce sera Théophile ». Mais Vianney, lui, c'était pas de toute éternité, n'exagérons rien tout de même, mais dès que nous avons eu connaissance des difficultés qui seraient les siennes, nous avons choisi de le placer sous la protection d'un saint patron qui à la fois a marqué son siècle et qui en même temps a témoigné d'un très grand amour du bon Dieu et d'une endurance, on le sait au confessionnal notamment, qui probablement d'ailleurs a eu raison de ses forces, mais d'une endurance à toute épreuve. Et donc voilà, on a voulu un saint de compétition, comme dirait Vianney.
D'accord. Alors, avant d'aborder la question spirituelle...
Oui, celle de l'école.
Alors voilà, il est à l'école.
Il est à l'école.
Comment est-ce que ça se passe?
Ça se passe très bien. Il est à l'école.
C'est l'école de tout le monde?
Oui, absolument. Il va rentrer au collège l'année prochaine. Donc il a un an de retard parce que, comme il a... en raison des nombreuses opérations qu'il a subies, manqué près d'un an d'école lors de son CP ou CE1, je ne sais plus. Nous l'avons fait volontairement doubler une classe, de sorte qu'il a un an de retard, mais ce n'est pas bien grave. Il va passer au collège. Il est dans une classe Ulysse, c'est une classe petit effectif, ils sont 8. 8 enfants qui sont tous atteints d'un handicap.
C'est ça que je voulais entendre.
Absolument. Il est mis dans une école privée sous contrat classique.
D'accord.
Mais simplement qui accueille une classe Ulysse. Deux classes Ulysse. Il est en Ulysse 3, c'est-à-dire c'est le niveau CM1, CM2, c'est avant le passage en 6e. C'est une classe qui est pour lui une vraie chance. Mais encore une fois, ça n'existe pas partout. C'est parce que c'est dans le privé sous contrat, dans une ville des Yvelines, et que bien évidemment tout cela suppose que que les parents le puissent, et voilà, parce que ça a un coût.
D'accord, ça veut dire
c'est une école privée sous contrat, donc ça a le coût déjà du privé sous contrat.
D'accord. Donc dans une école publique, ça n'existe pas.
Ça peut exister, mais je ne sais pas si dans la ville en question. C'est présent. La question ne s'est pas posée parce que pour nous, il était essentiel qu'il fût scolarisé.
En tant que catholique, oui.
Voilà, exactement. L'idéal eût été le hors contrat, mais ça n'était pas possible parce que, sauf à compter sur l'aide, la solidarité des parents et de l'école, ça aurait signifié pour nous de devoir faire la dépense d'une AESH. Et ce sont plusieurs, donc une aide au quotidien, si vous voulez. Et ça aurait signifié plusieurs milliers d'euros par mois. Et là, c'était une dépense quand même qui était très importante. Bon, l'idée, ça a été de le mettre dans le sous-contrat et puis de compléter ce qui devait être complété par ailleurs, le cas échéant. Mais en l'occurrence, cette école est vraiment formidable. D'abord parce qu'elle est bienveillante, elle accueille. Vianney a été accueillie par la directrice. Je me souviens, elle nous avait dit ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir un enfant handicapé. Il est en fauteuil roulant, c'est le seul en fauteuil roulant de son école, mais ça nous fait vraiment plaisir.
Mais alors les sept autres.
Et les sept autres, ce sont des handicaps cognitifs, mais différents.
D'accord, donc voilà. plus légers.
Il y a des enfants qui sont atteints de trisomie, d'autisme, je crois, voilà. Il y a différents types d'atteintes, mais qui sont des atteintes cognitives.
Si vous les mettez tous les huit dans une classe à part,
oui,
c'est
mais
que l'inclusivité...
Alors, l'inclusivité... Moi, je pense que l'inclusivité, à tout prix, c'est l'autre nom de l'exclusion.
Ouais.
Ça, je crois que l'on ne peut pas réfléchir de la même manière sur le cas d'un enfant qui est atteint d'un handicap cognitif comme on réfléchirait sur le cas d'un enfant qui ne connaît aucune atteinte de ce point de vue-là. Un enfant handicapé, il a son rythme. Il a ses contraintes. Rééducation, rendez-vous médicaux, hospitalisation, que sais-je encore. Donc, il ne peut pas suivre le même rythme que les autres enfants.
Bien
et
sûr.
Puis, il a aussi son endurance à la fatigue. Parce que c'est comme si vous faisiez courir, comment est-ce que je pourrais vous donner, un cheval de trait, en quelque sorte, et un cheval de course.
Oui, bien sûr.
Ce sont tous les deux des chevaux, mais ils n'ont pas le même entraînement, la même rapidité. Donc, ce n'est pas possible. En revanche, l'absence d'inclusivité est aussi une forme d'exclusion. Donc, Vianney, il a cette classe à petit effectif de 8 enfants, avec une AESH individuelle, c'est-à-dire une aide, ce qu'on appelait une AVS, on dit aussi, une assistante de vie scolaire, on disait autrefois, maintenant on dit une AESH.
Oui, bon, ça revient
Mais ça va être plus simple
pour les auditeurs.
C'est plus simple. Voilà, c'est pour ça que je le traduis autrement, parce que ça fait aussi partie de notre quotidien, hein, les acronymes, les abréviations. Voilà. Mais derrière, il y a des réalités humaines et que je veux absolument, comment dirais-je, dont je veux absolument parler aujourd'hui, parce que sans ces personnes, on n'en serait pas là non plus. Et donc, merci à elles. Elles se reconnaîtront. Je n'ai pas besoin de les citer. Je disais donc, il y a effectivement cette AESH individuelle, une AESH collective, donc pour tous les enfants, qui aide la maîtresse. Et puis, à côté, Vianney suit des cours en commun avec les autres élèves.
Quel genre de cours, alors?
Je crois qu'il y a peut-être des cours d'histoire, il y a voilà, des matières qui sont des matières un peu plus générales ou artistiques, me semble-t-il. Donc, il n'est pas à part, il est particulier, et donc il dans le sens où il a le droit à une attention particulière, mais il n'est pas à part en permanence. Dans la cour, ils sont ensemble, et dans certaines matières, ils sont ensemble. Donc, il y a une véritable vie joyeuse de camaraderie entre, qui unit tous les élèves de cette école. Donc ça, c'est pour nous un très grand réconfort aussi, parce que la première des choses que l'on s'est dit, quand on l'a mis à l'école, on s'est dit, comment va-t-il vivre son arrivée dans une école avec des enfants qui n'ont pas son handicap, il est en fauteuil roulant, donc lui c'est très visible si vous voulez. Enfant trisomique, ça peut être visible, mais différemment. Lui c'est très visible, il est sur roue.
Oui, voilà. Bien sûr.
D'ailleurs c'est très drôle, quand il roule très vite, il dit qu'il court.
Oui,
donc,
oui.
Vous voyez, c'est, pour lui son fauteuil c'est une réalité, enfin, ce sont ses jambes, mais par définition c'est très visible, donc on ne peut pas dire, voilà, si, alors parfois on nous a posé dans la rue, oh, il s'est cassé une jambe. Non, non, il est né comme ça. Voilà, c'est ce qu'on répond. Mais donc voilà, donc, si vous voulez, il a cette grande chance. L'école n'est donc pas du tout un sujet de préoccupation pour nous. Vraiment, ça n'est pas du tout un sujet de préoccupation pour nous. Ça n'est plus un sujet de préoccupation. Alors là, il va passer au collège. Comment l'entrée au collège va-t-elle se passer? Personne ne peut le dire. Dans les mêmes conditions, ouais. Une classe Ulysse également. Où il est,
pourquoi est-ce qu'on appelle ça une classe Ulysse? C'est encore un acronyme?
Oui, c'est un acronyme.
Ah oui, oui, d'accord. Oui. Donc c'est,
alors, ma femme pourrait vous le dire sans aucune difficulté. Bon. Moi, je confesse mon ignorance. Je n'ai pas, peut-être que je devrais, mais je n'ai pas cette connaissance quotidienne des détails pratiques. Voilà. Donc, je veux pas passer pour le cuistre, mais je ne peux pas.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bon, est-ce que, évidemment, j'allais dire la question que j'ose à peine poser, mais pour rester dans le concret du concret du concret du concret, est-ce que Vianney peut vivre longtemps comme ça?
Oui. Oui, oui. Bien sûr, non, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'engagement, comme on dit, du pronostic vital à
d'accord.
long terme ou à moyen terme. Non, il peut vivre aussi longtemps que vous et moi, avec des difficultés différentes, c'est une évidence. Aujourd'hui, il ne marche pas. Enfin, il a des attelles dans ses chaussures, ce qui lui permet de marcher, mais il n'a pas l'endurance que vous avez, vous, que j'ai moi. Donc, il pourra marcher 10 minutes, un quart d'heure, peut-être, sans déambulateur, parce qu'il a aussi un déambulateur. Enfin, je ne peux pas vous faire toute la panoplie des équipements médicaux, sinon on y est encore demain. Mais...
Ouais.
Et il a son fauteuil, qui sont des aides essentielles pour lui. Il peut marcher un peu, mais il ne peut pas marcher longtemps. Alors, avec un déambulateur, il peut marcher un peu plus longtemps, mais il ne peut pas marcher longtemps. Alors, la question qu'on s'était posée aussi, c'est est-ce qu'un jour, il faudrait songer à un exosquelette ou je ne sais pas quoi, un truc? Est-ce qu'on va l'encarapassonner comme Robocop pour qu'il marche normalement, fût-ce au prix de grandes fatigues, parce que la station debout reste la station debout, même si on est soutenu? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut qu'il vive normalement. Il est heureux. En fauteuil roulant, c'est un enfant quand on le connaît qui est souriant, dont le bleu perçant du regard attire immédiatement l'œil. On y lit même son âme. Chez ces enfants extraordinaires, ce qui est absolument bouleversant, c'est comme il n'y a pas de filtre, l'œil est un miroir de l'âme. Voilà. C'est un miroir de l'âme. Et donc, quand vous avez un enfant souriant avec des grands yeux bleus, joyeux, bah, si jamais vous deviez vous sentir mal à l'aise face au handicap, bah, vous êtes tellement désarçonné que par cette spontanéité que tout de suite vous vous sentez mieux. Il n'y a aucune difficulté.
Pourquoi dites-vous qu'il n'a pas de filtre? Qu'est-ce qu'il fait? C'est son...
Alors, il y a un problème de censure, ça, qui est lié à son impulsivité, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants comme ça, qui connaissent des épreuves particulières et qui ont aussi des atteintes cognitives, notamment, puisqu'il y a une atteinte cognitive ici, sont très sincères. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai, quoi. C'est de la patte humaine, mais sans travestissement, sans phare comme les dames de la Bruyère. Vous voyez, il n'y a pas de... c'est même difficile pour moi de trouver mes mots parce que c'est une évidence, mais il n'y a pas de faux semblant, quoi. C'est totalement c'est cristallin.
Et je vous propose,
et c'est bouleversant.
Oui. Après une nouvelle pause musicale, on abordera la question spirituelle, surtout cet impact, peut-être en commençant par l'évocation du livre de Laurence Trochu. Et puis ensuite, c'est vous qui parlerez en votre nom et de votre propre expérience. On se passe un peu de musique. Thank you. pour comment dirais-je, aborder la dernière ligne droite, ou à peu près la dernière, on va parler du livre de Laurence Trochu, pour plusieurs raisons. Bien sûr qu'on pourrait se dire, bah oui, mais Laurence Trochu, c'est une amie, c'est une de vos amies en tout cas, elle ne m'honore pas de son amitié, mais elle vous honore de la sienne, et surtout, elle a vécu la même année, si j'ai bien compris, que celle de la naissance de
pas
Vianney.
Pas la naissance, mais que de l'Anus horribilis de Vianney, c'est-à-dire l'année qui était vraiment la plus
d'accord.
compliquée.
Parlez bien dans
oui,
le micro.
Oui, je me suis éloigné du
elle
micro,
a, elle a, je remontre encore le livre donc, de Laurence Trochu, qui, avec un titre qui est stupéfiant, « Maman, j'ai vu Jésus ». Alors, évidemment, les téléspectateurs vont peut-être deviner à peu près de quoi nous allons parler. Et elle, vous m'avez dit hors antenne, ce qui est incroyable avec ce livre, c'est que c'est une sorte d'écho à votre propre histoire, même si l'histoire n'est pas la même.
Différente.
Et vous pouvez peut-être la présenter, cet accident
oui.
de voiture.
Effectivement, c'est ce que je disais, c'est comme lorsqu'on se tient au sommet d'une montagne et que l'on crie écho, oh, 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 oh. C'est exactement ce que ma femme, comme moi d'ailleurs, avons ressenti lorsque nous avons lu ce livre. Nous connaissons effectivement, ce n'est pas un secret, Laurence Trochu.
Vous avez gagné son dernier procès.
Oui, voilà, mais j'ai aussi effectivement, c'est aussi une amie, c'est vrai. Je ne le dis pas publiquement dans le cadre de mes fonctions, mais c'est une réalité. Ici, je ne suis pas là en tant qu'avocat, donc je peux parler plus librement. Nous connaissions donc les difficultés, de Stanislas et les raisons de...
Donc Stanislas Trochu, fils de
Laurence Trochu, pardon, et les raisons de celle-ci, mais c'est vrai qu'on n'avait pas véritablement en tête les choses telles qu'elles s'étaient passées. Donc ce livre qui est, je l'ai dit, je l'écrirai, je pense, dans une publication prochainement, puisque j'en ferai la recension.
Sur Politique Magazine
qui est une excellente publication. Je l'ai dit, c'est un vibrant témoignage de la fragilité de la vie. Voilà, sur la fragilité de la vie. Mais qui n'est rien comparé, et vos auditeurs et spectateurs le découvriront en lisant ce livre, que je les incite véritablement à lire le plus vite possible. Parce que si un livre doit être lu cette année, c'est celui-là. Il n'est rien comparé à l'amour maternelle, paternelle, à l'amour familial, à l'amour filial, parce qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup dans ce livre, et à l'amour sans mesure du bon Dieu. C'est, si vous voulez, la preuve, s'il en était besoin, que nous sommes aimés infiniment du bon Dieu, et qu'il est là. Que lorsque dans la difficulté, nous marchons dans la neige et que nous ne voyons que deux pas, ce n'est pas parce que le Christ ne nous suit pas ou ne nous précède pas, c'est parce qu'il nous porte sur ses épaules. C'est ça. Les deux pas que nous voyons, c'est ceux du Christ, et nous, nous sommes perchés sur ses épaules. Ce livre, c'est exactement ça. Stanislas, effectivement, vous l'avez dit, il a 11 ans, j'espère ne pas me tromper dans l'âge, il a 11 ans lorsque lui arrive cet accident, c'est un mardi gras de 2017, il sort de chez lui, après avoir dit à sa mère « N'oublie pas le Nutella », puisque c'était pour les crêpes du Mardi Gras, bien sûr. Et il est renversé par cette voiture. Et ensuite, il est pris en charge par les pompiers. Il est longtemps hospitalisé. C'est tout un carême qu'il vit à l'hôpital. Et entre la vie et la mort, d'où il revient. Et d'où il revient, et on l'apprend dans le livre. Et ce sont donc... ces moments de vie, de doute, de crainte, de joie, de peur, qui sont racontés dans ces 68 pages avec une très belle préface du chanoine Boulle, ancien curé de la cathédrale Saint-Louis, qui a été également notre curé quand nous étions
à Versailles.
Et puis aussi quelques lignes absolument bouleversantes de Benoît Trochu,
le père
dont l'écriture est véritablement à cœur ouvert, et je ne parle même pas de la prose de Laurence qui est aussi belle sur la forme qu'elle est dense sur le fond. Ce sont 68 pages, mais mais qui, si vous voulez, en termes de puissance, en font 1000, 2000, 3000. Vous voyez, c'est, ça se lit vite, mais ça doit être relu parce que c'est dense, c'est profondément dense.
Si j'ai proposé que nous en parlions, c'est pas du tout que ce soit la même histoire, puisqu'il ne s'agit pas d'un enfant né handicapé, mais
il n'a pas vécu non plus l'expérience de vie imminente, comme il dit, voilà.
Voilà, il a vécu ce qu'on appelle une EMI, expérience de mort imminente, et le docteur Tellier, un médecin qui parle, dit non, c'est une expérience de vie imminente.
Exactement, et c'est comme ça d'ailleurs que Stanislas lui-même le décrit. Et ce qui est donc bouleversant, c'est qu'aujourd'hui, Stanislas, il a 20 ans, je crois que Laurence Trochu l'a dit plusieurs fois, il a passé son bac avec mention. C'est un garçon que je connais, qui est drôle, qui est vif, qui a une énergie étonnante, qui est volontaire, qui est gentil. Enfin, voilà, c'est vraiment un garçon absolument extraordinaire, au sens où on l'entend nous, hein, c'est ces enfants extraordinaires, c'est-à-dire qui ont vécu autre chose et qui vivent quand même avec cette chose, avec ce handicap, avec ce passé.
Il a gardé un handicap quand
même. Il a gardé, effectivement, et Laurence Trochu l'a dit, il a une élocution qui est différente, il a des mouvements qui sont différents, il ne marche pas de la même manière que nous marchons nous-mêmes.
Mais quand il est assez petit encore...
Il a 11 ans.
Il raconte.
Et voilà,
ce
effectivement,
qu'il a vécu,
c'est absolument bouleversant. J'ai même du mal à trouver des mots parce que c'est vraiment. Enfin, il faut le lire. C'est comme un pèlerinage en Terre Sainte. On ne peut pas le raconter. Il faut le vivre. C'est la même chose pour ce livre. C'est très difficile de raconter ce livre parce qu'en fait, il faut le lire. Il faut le lire pour comprendre pourquoi, d'ailleurs, Laurence Trochu dit, et ça, j'aurai l'occasion d'en reparler, que tout ce que nous vivons, y compris dans nos difficultés, dans nos fragilités, dans nos épreuves, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce livre, il est, à mon avis, si je devais... Cette recension que je dois faire, je pense que je lui donnerais comme titre pour la gloire de Dieu et le salut du monde, parce que c'est ce que je retiens véritablement de ce livre. Donc effectivement, Pentecôte 2017, donc nous sommes quelques mois après l'accident, hein, puisque Mardi Gras, il y a le carême qui passe par là, et puis Pentecôte 2017, Stanislas revient à la maison, puisque à ce moment-là, il est dans un centre où il réapprend, à parler, à marcher. Enfin, il est rééduqué puisqu'il a perdu tout cela dans le coma qu'il a vécu et puis avec les séquelles qu'il a connues. Il a ces mots absolument bouleversants d'une voix. Je vais en lire que quelques lignes parce qu'il faut que les téléspectateurs et les auditeurs aient le plaisir de le lire eux-mêmes.
Bien sûr.
Et il faut qu'ils lisent ce livre. Donc, je ne vais pas déflorer du tout ce qu'il dit complètement. Pentecôte 2017, d'une voix fluide, quasi identique, enfin identique, disent-ils même dans le livre, à celle qui était la sienne avant l'accident. Il a ces mots.
Et qui redeviendra une voix handicapée après.
Et voix qui redeviendra plus fragile, plus saccadée ensuite. Donc là, c'est bouleversant. Et Benoît Trochu, qui entend ces mots, le père de Stanislas, les prend sous la dictée. Enfin, la dictée. C'est pas la dictée, parce qu'en fait, c'est...
Son fils ne lui dicte rien, mais il prend en note.
Il livre absolument ce qu'il a vu. Eh bien, il prend ses notes qui sont précieuses pour aujourd'hui, puisque c'est un témoignage bouleversant de ce qu'il a vécu et qui peut-être se serait perdu si personne n'avait songé à le noter ce jour-là. Je lis quelques lignes simplement. Donc, savez-vous ce qui s'est passé pendant l'accident ? J'ai vu Jésus. Lorsque j'étais dans le camion du SAMU, le médecin est allé vous voir pour vous annoncer que j'avais peu de chances de vivre. J'ai vu maman s'écrouler en pleurs dans le salon près de la commode. Je voyais ce qui se passait alors que je n'étais pas avec vous. Vous êtes même venu me dire au revoir avant que le SAMU ne m'emmène à l'hôpital. Vous vous penchiez sur mon corps, mais mon âme n'y était plus. Je vous voyais d'en haut, et moi, j'étais dans la vraie vie. Jésus est venu me voir, il m'a couvert de son ombre. Jésus, accompagné d'anges et de Marie dans un champ couvert de fleurs que je n'avais jamais vu sur terre. Les anges chantaient pour moi des chants que je n'avais jamais entendus sur terre. Jésus était resplendissant de lumière. Je voulais qu'il me prenne dans ses bras. Et un peu plus loin, il dit, parce que je ne veux pas tout lire,
oui.
Voir Jésus, c'est toucher l'amour, un amour d'une grande puissance qui s'impose à moi et qui me remplit.
Alors, évidemment, avec ce genre de témoignage, on comprend qu'il n'y a pas que cette vie sur terre. et même il y a surtout la vie qui suit. Ce qui, évidemment, vous aide aussi dans vos choix face à l'épreuve du handicap de votre
bien
fils.
Sûr.
Mais cette fois-ci, c'est vous à qui je demande de témoigner, et non pas Laurence Trochu. Spirituellement, qu'est-ce que tout cela vous a apporté ?
Ce serait très très long de dire exactement ce que tout cela nous a apporté, parce que c'est absolument immense. Nous avions une vie de foi, nous avions une, je crois, enfin en tout cas, on s'efforçait d'être le plus catholique possible. C'est Marion Maréchal qui, je crois, dit dans son livre, « Je ne peux pas dire que je suis catholique, mais je m'efforce de l'être. » Bruno Bonelli, je crois, l'a dit à ce micro aussi un jour, parce qu'on
C'est une vraie phrase de catholique.
On s'efforce de l'être. C'est un pèlerinage que celui de la foi. Notre pèlerinage sur terre, il est semé d'embûches, de bivouacs, de haltes. Il est parfois nécessaire de reprendre des forces et parfois on tombe et on se relève. Enfin voilà, c'est ça la vie d'un catholique. Et donc, nous avions une vie spirituelle. En tout cas, nous avions une vie sacramentelle, communautaire également. Mais je crois, bien sûr, on tenait pour vrai tous les articles du credo, y compris celui de la communion des saints. Mais là, plus que le tenir pour vrai, on l'a touché du doigt. C'est-à-dire qu'on a fait l'expérience de la communion des saints. Une expérience qui a changé notre vie. Songez qu'alors que Vianney n'était pas encore né, nous avons reçu des dizaines, des centaines, peut-être des milliers, je ne sais plus, de témoignages du monde entier, de gens que l'on ne connaissait pas, de gens que l'on connaissait bien sûr, mais de gens que l'on ne connaissait pas. Nous avons reçu des présents, des croix brodées, des reliques. On a reçu les reliques de Saint Charbel, par exemple, qui nous ont été envoyées par
un Saint Libanais.
Qui nous ont été envoyés par je ne sais même plus qui, parce qu'on a reçu tellement de choses. Des gens nous ont dit, mais on a fait célébrer des messes, je crois que ce sont des centaines de messes qui ont été célébrées, des chaînes de prières, des chapelets qui ont été récités, des saints qui ont été appelés à la rescousse de nos pauvres âmes perdues.
Comment tous ces gens-là étaient-ils au courant de...
Alors, c'est la force...
Par la paroisse, par tout ça ?
Oui, c'est la force de la vie communautaire.
Ouais, voilà.
C'est probablement aussi la force de notre environnement social qui est en communication assez facilement, où les gens se connaissent, où l'on connaît des amis, où l'on connaît des cousins, où l'on cousine. Enfin, il y a aussi une forme de privilège qui est liée à l'environnement qui est le nôtre. C'est une réalité, mais pas que.
Donc on a vu que pour d'autres, c'est la pauvreté et la solitude. Vous n'avez pas connu la solitude.
Et c'est d'autant plus pour cela, parce que vous dites que pour d'autres, c'est la pauvreté et la solitude, que l'on doit témoigner et que l'on doit être présent, nous aussi, pour ceux qui ont besoin de ce soutien. Mmh. Et cette épreuve, elle nous a fait toucher aussi du doigt combien l'exercice de la charité devait aussi, et je ne suis pas le plus franciscain de ce plateau, sans doute, mais le pape François disait qu'il fallait aller aux périphéries, et si ça a choqué certains à l'esprit un peu bourgeois et libéral, ce qui n'est pas mon cas, je crois que c'était vrai. Et ça vient, la périphérie, c'est comme les saints du quotidien, ils ne font pas des choses extraordinaires, Sainte Thérèse. Elle n'a pas fait des choses extraordinaires tous les jours de sa vie. Peut-être que simplement en ramassant des épingles, en se taisant à côté d'une religieuse qui chantait faux, en supportant les choses.
Sainte Thérèse de Lisieux.
Elle a été Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr. Pas Sainte Thérèse d'Avila qui est d'une autre époque d'abord et puis d'un autre tempérament aussi. Même si la petite comme la grande Thérèse sont aussi précieuses l'une que l'autre à l'Église. Voilà, donc c'est au quotidien finalement que l'on a changé. Ce qui était très important aussi, je crois, alors bien sûr, il y a eu la foultitude des anonymes sur terre, mais des anonymes dans le ciel aussi, des saints, ceux qui sont nommés, ceux qui ne le sont pas. Parmi ceux qui sont nommés, moi je veux dire que l'on a une vénération toute particulière pour le Vénérable Pie XII, qui n'est pas encore inscrit dans le livre des saints, mais qui, je l'espère, un jour le sera quand l'histoire lui aura rendu justice. Le vénérable professeur Lejeune, qui a parfois été malmené d'ailleurs ces dernières années, mais qui on a prétendu qu'il n'aurait pas été le découvreur de ce qu'il a découvert, à savoir le gène surnuméraire de la trisomie 21.
De la trisomie, oui. Mais on lui reproche d'avoir été contre l'avortement. Donc,
voilà, voilà, en plus. Mais voilà, donc le vénérable professeur, le jeune, voilà, le serviteur de Dieu professeur, le jeune a aussi, lui, fait partie de cette... De ce cortège d'intercesseurs, Notre-Dame de Rocamadour et bien d'autres encore. Et
pourquoi Notre-Dame de Rocamadour?
Parce que mes beaux-parents à l'époque avaient une maison dans le Périgord et nous étions assez proches de Rocamadour. Et alors que Vianney n'était pas encore né, nous nous y sommes rendus en pèlerinage familial avec mes beaux-parents et des beaux-frères et belles-sœurs qui étaient là. Et nous avons confié cette vie naissante à la Vierge Noire de Rocamadour, qui ne fait pas que sauver les marins, mais qui intercède aussi pour les âmes qui s'offrent à elle. Et Vianney lui a été offerte, et nous avec. Et voilà, donc je pense que, à la fois la Vierge Marie, qui est celle qui touche le plus sûrement le cœur de son fils, mais bien sûr tous ceux qui, dans le ciel, chantent déjà sa gloire, eh bien, avec le soutien de tout cela et de tous ceux qui, sur terre, ont été des lumières qui n'ont pas vacillé sur notre chemin, eh bien, nous avons été capables d'avancer, et d'avancer tous les jours que Dieu fait. Il y a eu ce miracle, je vous l'ai dit, de la naissance, il y a eu ce miracle d'un cerveau différent que de celui qui était annoncé, et en tout cas d'une... Je ne suis pas médecin, mais d'une configuration de la boîte crânienne qui était différente. Et il y a eu aussi un autre miracle, je crois. C'est celui du jour où Vianney s'est levé pour la première fois pour ne plus jamais, depuis, perdre cette station debout, même si elle est difficile, même si elle est fatigante. C'était en 2016, je crois, pour la vénération, la première ostension de la Sainte Tunique d'Argenteuil. J'étais, pour des raisons qui sont inconnues aux auditeurs et téléspectateurs et que je ne dévoilerai pas, présent, et j'assurais avec d'autres personnes,
aussi,
y étiez, c'est pour ça que je pense que vous serez d'autant plus touchés que je le dise.
Oui, en effet.
Et c'est d'ailleurs une des premières fois où nous avons fait connaissance.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Et une personne en fauteuil roulant voulait passer sous l'autel qui accueillait le reliquaire qui n'était ce jour-là pas exposé, avec donc la Sainte Tunique à l'intérieur, et le fauteuil roulant ne passait pas, il était trop large. Alors, avec un autre ami et confrère, nous avons porté cette personne et nous sommes passés avec lui sous le reliquaire. Et à ce moment-là, il y a une prière d'intercession qui est « Seigneur, par votre Sainte Tunique, sauvez-moi ». J'ai dit ces mots et je les ai confiés au Seigneur en lui demandant « Si jamais vous pouvez penser à Vianney dans l'histoire, bah ce serait chouette, quoi, pour parler comme un enfant peu, parce qu'on a aussi cette âme d'enfant hein, quand on vit ça. » Et le même jour, peut-être pas à la même heure, mais quoique, il faudrait que je demande à ma femme, Vianney s'est levé.
Ça alors.
C'était en 2016, donc il avait 2 ans.
2 ans.
Ce qui n'est pas un âge très.
Non.
très prématuré pour se lever.
Non.
Il s'est levé ce jour-là. Ça, pour moi, c'est aussi la manifestation d'une présence du bon Dieu à nos côtés. Bien sûr, Vianney reste handicapé. Les difficultés sont toujours là. Mais, comme dirait ma femme, qui décidément m'a beaucoup appris aussi, beaucoup. On a accepté d'embrasser la croix, mais elle a tellement fleuri sous l'effet de la grâce qu'on n'en sent plus le bois. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on n'en sent plus le bois.
Je vous propose, pour les toutes dernières minutes, il ne reste plus beaucoup, de vous retirer dans une zone un peu intermédiaire. On a beaucoup parlé de la terre, le concret. Là, on est allé dans le ciel, le religieux. Mais dans une zone intermédiaire qui reste quand même spirituelle, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre âme? Là, je ne parle plus vraiment de religion. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors, je propose qu'on fasse une dernière petite pause musicale. On va finir, Loïc Leurat. Donc je dis entre les deux, c'est entre
ciel et terre.
Entre ciel et terre, ne parlons plus concret, on en a beaucoup parlé, religieux, mais vous-même, enfin comment vous dire, dans votre état d'esprit quotidien, ça reste spirituel, mais c'est votre état d'esprit plus que votre foi.
Oui, ça reste spirituel quand même, parce qu'au fond, on est au-delà du physique, on est dans le métaphysique, même si c'est un peu pédant d'utiliser ce mot pour notre réalité, mais c'est ça tout de même. Alors, ce n'est pas religieux quand je dis cela, je cite saint François d'Assise qui, vous savez, s'émerveillait de la rosée du matin.
Oui.
Et qui nous demandait de réapprendre à nous émerveiller. Eh bien, en fait, ce que nous avons vécu nous a appris à nous... Je vous l'ai dit tout à l'heure, vivre, ce n'est pas d'avoir peur de la pluie, ce n'est pas avoir peur de l'orage, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc ça, c'est pour les épreuves. Donc, les épreuves, on arrive à les dépasser autant que possible. Mais il faut savoir aussi se réjouir. Et on a appris, avec ma femme, avec Théophile, notre aîné, avec tous ceux qui nous entourent, à nous réjouir des petites choses. C'est-à-dire que une parole, une évolution, un pas, tout cela, ça a bien plus d'importance que de savoir quand on a marché sur la Lune, si on arrivera à y retourner, si SpaceX fonctionnera ou pas. Tout ça, c'est exceptionnel pour l'humanité, mais pour nous, ça n'a aucune espèce de résonance dans la mesure où le miracle quotidien des progrès de Vianney est bien plus merveilleux que tout ce que l'homme saura faire d'extraordinaire.
Et ça, au-delà de Vianney, il y a...
Et c'est vrai pour tout. Mmh. C'est vrai aussi... C'est vrai aussi... Alors, ça a aussi renforcé chez nous l'importance d'être unis. L'importance d'être unis et l'importance aussi de se battre dans la société parce que, je vous l'ai dit, nous étions peut-être des militants de salon jusqu'à présent. Nous sommes devenus des militants acteurs.
Des témoins.
Témoins, mmh. Exactement. Mmh. J'allais en arriver justement à cette dimension du témoignage. Eh bien, nous avons appris à oser nous sentir légitimes à dire les choses, à mener des combats, qui sont des combats naturels, pour le coup, contre un certain nombre de tentations de la société, d'écarter la fragilité, d'écarter la faiblesse, la différence, quand elle ne lui plaît pas. Nous avons appris effectivement à oser nous juger légitimes à nous battre de manière plus... à la fois de manière publique, mais de manière plus enracinée, plus... C'est pas facile à dire, parce que tout ça, ça relève de l'évidence maintenant chez nous. C'est ça l'autre miracle. On dit souvent que la guérison, c'est pas forcément ne plus avoir la maladie, mais c'est l'accepter. Bah, ici, le miracle, c'est qu'en fait, tout nous paraît normal.
Merci beaucoup, Loïc Leurat. Je pense que ce que vous avez dit va impressionner des dizaines de milliers d'auditeurs. Merci pour votre témoignage.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Yves-Marie Adeline, dirigé par Yves-Marie Adeline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 20 avril 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.